Bonjour à tous, donc Alban Siffert, doctorant chez Amosis. Je suis notamment donc encadré à l'IRISA par Pierre-Alain Fouque et Alexandre Termier. Et aujourd'hui, je vais vous parler de seuillage intelligent. Alors brièvement, je vais vous parler du contexte. Bon, apparemment, vous en avez beaucoup parlé jusque-là, donc j'essaie de passer rapidement. Et on verra comment est-ce qu'on peut construire justement de meilleurs seuils. Et on s'en servira de ces seuils pour détecter des anomalies dans des flux de données. Et avec une application assez directe en détection d'intrusion. Alors brièvement sur le contexte, donc vous savez, on est dans le monde du tout Internet. Alors, ça crée deux problèmes. C'est d'un côté, évidemment, le nombre de vulnérabilités augmente, et également le nombre de menaces. Et il y a un troisième phénomène qui apparaît, c'est qu'on est de plus en plus conscient quand on a des infrastructures ou des données sensibles. Donc pour ces raisons-là, on s'intéresse particulièrement à la sécurité des réseaux. Alors une solution pour défendre les réseaux, on en a parlé juste avant, donc je vais essayer d'être rapide, sont les IDS, donc les sondes de détection d'intrusion. Ça regarde ce qui passe sur votre réseau et ça détecte des attaques. Donc aujourd'hui, on a des méthodes qui fonctionnent très bien, donc les méthodes à base de règles ou de signatures. Donc là, je vous montre deux exemples que sont Bro et Snort, mais vous connaissez aussi sûrement Suricata. Donc ces méthodes, donc elles sont basées sur une base de règles. Ça fonctionne très bien sur les attaques connues, dès lors que l'on connaît la règle à appliquer. Et malheureusement, ça ne peut pas détecter de nouvelles attaques. En plus de cela, c'est que ces méthodes, elles peuvent avoir tendance à regarder à l'intérieur des paquets les données qu'il contient. Et ça devient impossible avec le chiffrement des données, notamment. Donc pour ces raisons-là, justement, de nouvelles méthodes émergent, qu'on appelle détection comportementale ou détection d'anomalies. Ça essaye donc de pallier à ces méthodes-là en essayant de modéliser via des algorithmes type machine learning ou des techniques de data mining pour estimer le comportement normal de votre réseau. Et ensuite, on va essayer de chercher des comportements déviants et ces comportements déviants seront assimilés à des attaques. Donc il y a quand même des industriels qui proposent ce genre de produits. Donc j'en montre deux, notamment Darktrace, qui est un produit, enfin, une société anglaise, et Revilium, qui est un produit de la société française iTrust. Et donc c'est particulièrement sur ces méthodes-là que va porter mon propos par la suite. Alors comment sont construits ces algorithmes? C'est assez simple. Vous leur donnez des données et eux produisent des alertes. Donc là, jusque-là, pas de souci. Alors évidemment, beaucoup de gens ont travaillé sur ces algorithmes-là. Pardon. Et malheureusement, on en a parlé juste avant, mais vous en avez apparemment aussi parlé hier, c'est que ils ont tous été utilisés ou testés sur KDD99. Voilà. Malheureusement, c'est pas du tout un dataset représentatif. Et c'est aussi, je pense qu'il y a un deuxième phénomène à noter, c'est que ça encourage les techniques supervisées. Alors que les techniques de détection d'anomalies, on cherche plutôt à essayer de détecter de nouvelles attaques. Donc on veut plutôt avoir des techniques non supervisées pour pouvoir justement être plus robuste à des nouvelles attaques qui apparaîtraient. Aujourd'hui, il y a quand même plus d'efforts qui sont faits. On se concentre majoritairement sur des algorithmes non supervisés et on essaye de trouver d'autres sources de données. Alors ces algorithmes, ils ont l'air magiques. Ils sont plus ou moins magiques. La partie magique, c'est qu'ils sont très forts pour fournir des scores. C'est-à-dire que sur chaque donnée que vous avez, il va être capable de manière assez fine d'appliquer un score, une sorte de degré d'anormalité sur la donnée qu'il observe. Donc ça, c'est la partie magique. La partie moins magique, c'est qu'à la fin, la véritable décision qui est faite, est-ce que c'est une anomalie ou est-ce que c'est pas une anomalie, en vrai, c'est plutôt l'humain qui le fait. Et on applique un seuil à ces scores et on regarde si le score est plus haut que le seuil. Alors, on va dire que c'est une anomalie, sinon on va dire que c'est normal. L'utilisation d'un seuil, ce n'est pas vraiment un problème. On peut dire que ça peut être plus ou moins raisonnable. En fait, ce qui est un problème, c'est que généralement, on ne considère pas trop ces seuils-là, on ne se pose pas trop de questions là-dessus. Alors qu'on pourrait quand même s'en poser deux. La première, évidemment, c'est comment je fixe le seuil? Parce que j'ai un algorithme, mais dans le vrai monde, quand je veux le brancher, je mets quoi comme seuil? Et la deuxième aussi, c'est que dans un peu une démarche d'interprétabilité, on aime bien savoir ce qui signifie. C'est-à-dire, par exemple, on dit oui, réseau de neurones, mais généralement, réseau de neurones, ça fait des choses dont on ne comprend pas, vraiment ce que ça sort. Donc, on peut avoir un petit peu ce souci-là. Alors, il y a deux techniques qui existent pour les fixer. Alors, la première, c'est vous le fixez en dur. C'est-à-dire, bah, si c'est plus grand que 1,37, on va dire que c'est une anomalie. Okay. Et la deuxième, c'est un peu plus intéressante, qui est une approche probabiliste. C'est-à-dire que bah, vous allez avoir plus ou moins un modèle et vous êtes capable de fixer un seuil qui a un sens probabiliste. Alors, la première méthode, évidemment, ce n'est pas très adaptable. C'est-à-dire que vous allez avoir un seuil qui fonctionne bien dans un contexte et vous allez changer de contexte, ça ne va plus du tout marcher. Souvent, c'est que votre algorithme sort un score, une valeur numérique qui n'a pas forcément de sens. Donc, le seuil qui en découle, enfin, qui va être utilisé, bah, il ne va pas avoir de sens non plus. Et enfin, c'est que bah, pour le fixer, il faut bah, vous payer quelques ingénieurs pendant quelques semaines ou alors des grands experts pour vous dire « Ah, bah, c'est 1,37 qu'il faut utiliser. » La deuxième méthode, elle semble un peu plus adaptable, même si ça peut être problématique. Et l'avantage quand même, c'est qu'il a un vrai sens. Il a un sens probabiliste. On sait ce qu'il signifie. Or souvent, c'est donc, cette approche a l'air intéressante, mais le gros blocage, c'est qu'on fait une hypothèse en fait, sur les distributions des scores. C'est-à-dire, on va dire, bah, votre algorithme, les scores qui sortent, ça suit telle distribution. Donc ça, c'est une hypothèse qui est assez forte. Et on va justement essayer de fournir des meilleurs seuils en contournant cette hypothèse de distribution. Alors, je vous donne des exemples récents de publications d'algorithmes de détection d'intrusion, donc qui, bon, malheureusement, ne parlent pas trop de ces seuils et qui donc peuvent utiliser différentes approches pour les fixer. Ce n'est pas des mauvais algorithmes, c'est juste qu'on ne parle pas des seuils de décision. Comment peut-on fournir de meilleurs seuils? Alors, je vais prendre un petit exemple pour illustrer. Des données de paiement par carte de crédit. Donc on a une vision partielle d'un profil d'un utilisateur. Et ce qu'on aimerait par exemple, c'est que la banque puisse émettre une alerte dès lors que l'on paye trop ou qu'on dépense trop à un moment. Alors si je rentre un peu plus dans le détail, ce que j'aimerais, c'est un seuil probabiliste, c'est-à-dire c'est un seuil que je vais appeler ZQ, tel que la probabilité de le dépasser soit très faible, que je contrôle, qu'il soit majoré par Q. Ce qui fait que si par exemple je prends un Q qui est très faible, par exemple une chance sur un million, dès lors qu'une valeur dépasse ce seuil, elle est tellement anormale que je vais dire que, enfin, elle est tellement improbable que je vais dire que c'est une anomalie. Donc c'est un peu cette quête du ZQ que je vais entreprendre. Alors, la première approche, c'est l'approche empirique. On peut se dire, bon ben voilà, j'ai mes données, je veux seulement détecter les événements qui ont une probabilité 1% d'apparaître. Ben, je coupe mes données en deux, 1% à droite, 99% à gauche, et je mets mon seuil entre les deux. Ça fonctionne. Le problème, c'est qu'on est bloqué dans l'intervalle. C'est-à-dire que je vais être extrêmement dépendant de mes données. Et le second problème, c'est que j'aurai une résolution très faible. C'est-à-dire que je peux pas, si j'ai que 100 données, je ne vais pas pouvoir avoir une précision inférieure à 1 sur 100. C'est-à-dire que je ne vais pas pouvoir avoir un seuil avec une probabilité 1 sur 1 milliard, ou aussi faible que je veux. Donc ça, c'est assez problématique. Alors, la deuxième approche, donc là, vous l'avez tous vu, c'est une loi exponentielle. Ça ressemble, en tout cas. Donc bah là, quand j'ai un modèle, alors là c'est parfait. Là, je peux faire tout ce que je veux, parce que je peux calculer l'air sous la courbe, ici assurer, et hop, mettre mon seuil. Donc là, j'ai bien les garanties statistiques, il n'y a pas de souci. Donc là, je l'ai fait un peu rapidement. Mais le problème en fait, de cette démarche-là, c'est que c'est manuel. Je suis obligé de regarder les données, me dire « Ah oui, ça ressemble à quelque chose d'exponentiel, et bon, on verra bien si ça marche. » Dans ce cas-là, ça marche, mais dans le vrai monde, eh bien, c'est que la loi exponentielle ne fonctionne pas toujours. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, bah, par exemple, dans le cas des données financières, enfin des données de paiement, vous pouvez avoir bah, soit différents comportements, différents clients, ou alors le comportement peut changer au cours du temps. Donc là, dans ces exemples-là, par exemple, la loi exponentielle, elle ne fonctionnerait pas du tout. Donc en résumé, si on pouvait résumer donc, ces deux premières approches qu'on peut avoir, elles vont soit être difficiles à adapter, soit elles ne vont pas avoir une résolution voulue. Si je reviens un peu sur ces données-là, je me dis, bon, mon seuil, il doit être à peu près, raisonnablement vers 150, 160, ça a l'air d'être, je le cherche à peu près là. Le problème, c'est que dans cette zone-là, je ne connais pas grand-chose. J'ai quelques valeurs un peu extrêmes, vers 120, mais je ne connais rien. Et j'aimerais quand même pouvoir estimer des probabilités dans cette zone où je ne connais pas grand-chose. Alors, est-ce que c'est possible de faire ça? La réponse est oui, grâce à la théorie des valeurs extrêmes. Donc elle vient à la rescousse, et en fait elle est basée sur un théorème des années 20 qui dit de manière assez simple, c'est que peu importe en fait les données que vous avez, peu importe leur distribution, le bord de la distribution, vers les valeurs extrêmes, là où on cherche notre seuil, ça va tout le temps se comporter plus ou moins de la même manière. Donc ça, c'est très fort. Alors, il n'y a que trois possibilités. C'est soit en fait le bord, il est borné, ce qui signifie qu'en fait, il y a des événements qui vont devenir vite improbables, en fait, qui font improbables à partir d'une certaine valeur. Soit je vais avoir une décroissance exponentielle, ce qui fait qu'en fait, les événements extrêmes deviennent très vite improbables. Soit je vais avoir une distribution, ce qu'on appelle à queue lourde, ce qui fait que les événements extrêmes donc, ont une probabilité qui décroît, mais ont quand même une probabilité non négligeable d'apparaître. Donc ça, c'est vraiment très fort, c'est que peu importe les données que vous avez en entrée, vous avez toujours un modèle possible pour le bord, tout le temps. Et ça, peu importe la distribution que vous avez en entrée. Donc on va s'en servir justement pour construire notre seuil. On prend nos données, N données, vous avez donc un peu mon histogramme que je vous ai présenté. J'essaie de trouver sur le bord, c'est quoi la meilleure queue de distribution. Donc ça, c'est vraiment la partie compliquée à faire. Mais au final, c'est que j'ai juste à trouver parmi les courbes que je vous ai montrées laquelle semble le mieux. Il y a pas mal de paramètres optimisés quand même. Et enfin, en fait, j'ai un modèle justement exactement là où ça m'intéresse. Et quand j'ai un modèle, comme dans le cadre de la loi exponentielle, c'est facile, je peux calculer le seuil ZQ avec une probabilité Q aussi faible que je le souhaite. Donc je vous ai montré comment est-ce qu'on peut servir de la théorie des valeurs extrêmes pour calculer des seuils de décision. On va s'en servir directement de ces seuils-là pour détecter des anomalies dans des flux de données. Je vous présenterai donc l'algorithme que nous avons développé, donc qui s'appelle SPOT. Au début, vous partez avec vos données. Donc voilà, par exemple, quelques milliers de données. Donc ça peut être les cas des données financières que je vous ai présentées. Et donc l'utilisateur va fixer justement lui la probabilité d'un événement anormal pour lui, donc cette valeur de Q. L'algorithme, donc il va se calibrer par rapport à ça, il va dire, je vais fixer un premier seuil pour dire où se situe en fait la queue de distribution. Donc il va fixer ce premier seuil là, il va se servir de toutes les données qui sont au-delà de cette valeur pour trouver la meilleure queue de distribution de dans ce cadre là. Une fois que j'ai mon modèle, je peux calculer mon seuil. Ensuite, pour le flux de données qui peut venir par la suite, c'est facile. Soit je vais être plus grand que le seuil, dans ce cas-là, je vais déclencher une alarme, parce que c'est un événement improbable. Soit je ne vais pas être plus grand que le seuil, mais je vais quand même être dans la queue de distribution. Dans ce cas-là, en fait, je vais mettre à jour mon modèle. Je vais me servir de cette information-là pour justement raffiner ma connaissance. Soit, si elle est normale, je ne vais pas du tout la prendre en compte. Donc en fait, cet algorithme, il fait deux choses. D'une part, il va faire de la détection en temps réel. Et d'autre part, en fait, il fait de l'apprentissage incrémental, c'est-à-dire qu'il va s'affiner au fur et à mesure. Et on peut l'appliquer directement à un cas donc, de détection d'intrusion. Alors avant d'appliquer, je vous parlais un petit peu des données. J'en ai parlé un petit peu avec KDD99 au début. Donc malheureusement, en détection d'intrusion, on n'a pas grand-chose pour tester les algorithmes. Donc évidemment... Bon, je ne vous parle pas de ça. Donc, il y a quand même des gens qui décrivent précisément pourquoi ce dataset est problématique. Mais il existe quand même d'autres sources. Alors, je vous en présenter une, qui est Maui. Donc, c'est une plateforme en fait, qui recueille tous les jours 15 minutes de trafic entre les États-Unis et le Japon. Donc, on a une capture réseau. Mais en plus de cela, c'est que les données qui sont là-dedans, elles sont labellisées avec une taxonomie. C'est-à-dire qu'on peut avoir vraiment le détail un petit peu des attaques qui sont à l'intérieur. Donc, cette plateforme, elle a aussi des défauts. Mais disons qu'on a du vrai trafic et en plus, il y a des labels. Donc ça, pour tester un algorithme, c'est plutôt pas mal. On va essayer de détecter un scan SIN. Donc quelque chose qui est assez simple, assez classique. Donc pour ça, il y a une feature qui est assez intéressante, c'est le ratio de paquets SIN. Bon, a priori, est-ce qu'on a une idée de comment se comporte le ratio de paquets SIN sur un réseau? Est-ce qu'on sait quelle valeur ça a en général? Est-ce qu'il y a une valeur à ne pas dépasser? A priori, je ne sais pas du tout. Bon, je vais quand même vous le montrer dans ce cadre-là. Donc là, ça va être une journée d'août 2012. Donc ça commence, ça ressemble à ça. Donc vous avez un espèce de comportement normal en bas. Et puis vous avez des pics, donc sur les 900 secondes, les 15 minutes. Et donc on va utiliser notre algorithme pour justement détecter ces valeurs extrêmes, ces pics. Je fixe ma valeur de Q. Donc là, une chance sur 10 000. Et j'utilise en fait les 2000 données du précédent jour pour faire ma calibration. Et donc si je trace tout ça, qu'est-ce qu'on remarque? Alors on remarque en pointillé le seuil qui est construit, ZQ, donc qui est assez stable, mais on peut voir qu'il est quand même plutôt dynamique. En fait, il va changer, il s'adapte quand même. En fait, il est assez stable parce que la distribution de la normalité est plutôt stable. Et on voit bien, donc tous les points en rouge, ce sont tous les pics, toutes les anomalies qui sont détectées. Donc parfois, les points sont très resserrés parce que, en fait, il y a beaucoup de données dans cette série temporelle. Donc c'est vrai qu'on aurait pu se dire, bah oui, vu mes données, je mets tout de suite 0,15 et on n'en parle plus. Sauf que, évidemment, là, je le fais à l'aveugle, sans a priori sur les données, ni sans expertise en fait sur comment se comporte le ratio de Paquet-Sine. Alors on trouve des pics, c'est bien. Est-ce qu'on trouve des attaques? C'est autre chose. Donc pour étudier en fait ce phénomène-là, je vais vous montrer aussi le rôle du paramètre Q, qui est vraiment le paramètre le plus important dans l'algorithme. En fait, il va jouer le régulateur de faux positifs. Donc sur cet exemple-là, je peux vous montrer les courbes ROC, donc qui montre le taux de détection en ordonnée et le taux de faux positif en abscisse. Donc ce qu'on voit naturellement, c'est que quand Q est faible, donc par exemple 8, 10, moins 6, je vais détecter seulement des événements qui sont très anormaux, vraiment les plus anormaux. Donc je vais très peu me tromper, très peu de faux positifs, mais je ne vais pas détecter grand-chose. Par contre, si je relâche un peu la valeur de Q, là je vais pouvoir détecter beaucoup plus de choses avec le risque de me tromper évidemment davantage. Donc juste en appliquant l'algorithme directement sur une feature, enfin sur cette grandeur que l'on peut voir sur un réseau, je peux détecter environ 86% donc de flux de scan avec 4% de faux positifs. Donc c'est vrai que 4% de faux positifs, c'est évidemment en contexte réel, ça semble assez élevé. Néanmoins, en fait, c'est vraiment juste une application directe. Je ne fais pas de scoring particulier, je regarde juste une grandeur sur un réseau à l'aveugle. En résumé, donc cet algorithme SPOT, une de ses forces donc pour faire du sillage automatique, c'est qu'il a un seul paramètre Q, donc il n'y a pas 36 choses à paramétrer. Et l'avantage, c'est qu'il a un vrai sens, il a un sens probabiliste, il va construire ce seuil ZQ en fonction de Q. Et donc il a aussi donc un rôle de régulateur de faux positifs. Cet algorithme, il fonctionne en ligne, il a donc les deux facettes donc d'apprentissage incrémental et de détection en ligne. Et actuellement, donc, l'implémentation que l'on a est assez performante, ce qu'on peut traiter à peu près, enfin, un peu plus de 100 000 valeurs à la seconde. L'empreinte mémoire est assez négligeable dans son implémentation. Alors, en plus de la détection d'intrusion, on peut l'appliquer à de nombreuses choses. Évidemment, je peux le mettre en aval de n'importe quelle méthode de scoring. Et je peux même l'adapter aussi à des contextes où j'aurai énormément de dérives dans les données. Si le comportement change énormément, moyennant un paramètre supplémentaire, on peut l'adapter sans problème. En conclusion, donc, il n'y a pas de souci. Énormément de travail a été fait sur des algorithmes de détection d'anomalies. Certains fonctionnent très bien. Et le problème qu'on a rencontré, c'est que les seuils de décision, malheureusement, n'étaient pas vraiment abordés, ou ça dépendait d'un expert, ou alors on faisait une grosse hypothèse de distribution sur les données. Ce qu'on a décidé de faire, justement, c'est en se servant de la théorie des valeurs extrêmes, de pouvoir construire dynamiquement ce seuil en lui donnant, enfin justement, en récoltant tout son sens probabiliste. On s'en est servi donc pour faire la détection d'anomalies, mais en fait, on peut s'en servir pour observer ou pour contrôler n'importe quelle série temporelle totalement à l'aveugle. Voilà, je vous remercie.
Merci Alban. Donc maintenant, c'est la place aux questions. Une en haut à droite pour la scène.
L'algorithme fonctionne. Est-ce que vous avez fait un test bout en bout avec des algorithmes avec le seuil fixé par votre méthode?
Alors j'ai pas, en fait, pas directement sur des sur des algorithmes, je dirais, state of the art, plus sur des choses assez simples, et c'est vrai que ça fonctionne très bien. Comme ça, en fait, avec la méthode de scoring, justement, on peut prendre en compte la corrélation de features, et ça fonctionne plutôt bien, en fait, on peut détecter, enfin, pour l'instant, c'est de manière artificielle, on peut détecter sans problème des événements anormaux dans un cadre multivarié, par exemple.
Question gauche, oui. Voilà.
Je vois pas du tout.
Bonjour. Merci pour votre présentation. Justement, j'ai une question concernant la dimension multivariée de la détection d'anomalies.
Oui.
Il est tout à fait possible que certaines anomalies soient en dessous du seuil si elles impliquent plusieurs variables, que ce soit des anomalies locales, on va dire contextuelles.
Donc oui, en effet, je comprends totalement. C'est que l'inconvénient de l'algorithme, c'est que je peux en fait seulement observer une seule, enfin, comment dire, une série temporelle en dimension 1. En fait, là, dans le cas d'un cadre multivarié, malheureusement, en fait, on ne peut pas utiliser la même chose. Par contre, on peut se servir justement d'un algorithme de scoring qui, lui, prendra en compte justement la corrélation entre les événements et mettre donc cet algorithme de seuillage automatique en aval donc de l'algorithme de je dirais détection d'anomalies, enfin de scoring.
Il y a une autre question. Ah, il faut redescendre en bas, soit à gauche.
Allô. Ouais. Du coup, moi, je me demandais qu'est-ce qui se passe si un attaquant décide, juste avant de passer son attaque réelle, de faire monter seuil en lançant quelque chose qui va volontairement faire monter seuil. S'il balance beaucoup de trafic, il fait monter seuil. Est-ce que vous avez essayé ?
Alors oui, c'est une très bonne question. On peut se dire, donc, comme le seuil s'adapte, est-ce qu'on peut le leurrer ? Alors en fait, si on prend un peu un modèle boîte blanche, oui, on peut le leurrer. C'est-à-dire, si j'ai connaissance de l'état interne de l'algorithme, il n'y a pas de souci, ça va fonctionner. Après, c'est une hypothèse qui semble quand même assez forte. Mais bon, je suis d'accord en tout cas avec cette remarque-là, que c'est possible.
Enfin, sur le ratiocine, c'est plutôt simple. Quand on sait déjà à peu près ce qu'on peut estimer nous-mêmes ce qui va donner. Quoi.
En fait, on peut estimer ce que ça va donner, mais enfin, on peut quand même difficilement savoir quelle est la valeur du seuil. Parce que déjà, ça va dépendre par exemple du paramètre Q que vous avez fixé. Et si par exemple Q est très faible, vous allez avoir un seuil qui est très élevé, par exemple 0,8, et ça, l'attaquant, il ne va pas le savoir. D'accord. Donc il faut être juste en dessous du seuil pour pouvoir le modifier.
D'accord, merci.